se fier sur le gouvernement, c'est pas nécessairement de quoi d'optimal. Et là, c'est la vaccination. On reste dans le domaine juvénile. Des enfants de 5 à 11 ans qui se présentent comme si c'était la panacée du siècle. On nous a encore dit que c'était la façon de revenir à une vie normale. Ils ont osé nous annoncer un retour à la vie normale une énième fois. Je dirais que c'est à peu près la 12e à ma connaissance au Québec, là. Puis on suit énormément ce qui se produit du côté américain. Anthony Fauci est notre véritable master de santé publique. Oui, ils font pas exactement le copier-coller de la santé publique américaine. Mais exemple sur la vaccination, c'est beaucoup le cas. Et il y a qu'il y a des discussions qui se produisent. J'ai fait une publication sur ma page Facebook avec une question hier soir, juste avant de me coucher. Et j'ai mis ça sous mon oreiller. Ce matin, j'avais des surprises de la fée des vaccins. La publication allait comme suit. Je suis curieux. Ben simple. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous feriez vacciner vos enfants? Je vous dis d'emblée ma position personnelle, qui est hypothétique. Mes paupiettes, ma plus vieille a 3 ans, donc ne sont pas encore concernées. Pour moi, ce serait une abstention pour le moment. Parce que je suis pas convaincu ni d'un côté, ni de l'autre. On m'a pas convaincu de le faire, mais on m'a pas convaincu non plus du fait que ce serait diabolique. Puis le mot est pesé parce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent un peu contre la vaccination dans ce sens-là. Comme je disais avant de partir en pause, il y en a quand même qui s'élèvent au-dessus puis qui font la part des choses, je considère, et qui ont réussi à peser un pour puis un contre, puis se trouver une position que je considère éclairée, mais c'est pas la majorité. Alors, à ma question que je répète, pourquoi feriez-vous vacciner vos enfants, puis j'étais 5 à 11 ans, j'y vais avec des réponses obtenues. Ma fille de 13 ans est vaccinée, et moi également. Le vrai problème au stade où on est rendu, c'est le bon sens. Avec le taux actuel de personnes vaccinées, les mesures sanitaires sont complètement disproportionnées. C'est vrai, il y a 8 personnes à l'hôpital dans une région contenant 440 000 habitants aujourd'hui même, et t'as pas le droit de gérer tes propres funérailles et t'es pogné pour mettre un masque dans un lieu où pourtant t'es en sécurité. J'ai nommé, mettons, un dépanneur ou un corridor de bâtisse commerciale, comme c'est le cas ici. Ensuite, Kevin dit, à quand l'arrêt d'état d'urgence? On est, je crois, la seule province au monde où c'est encore là. Moi, j'aurais arrêté ça en juillet 2020 que j'ai répondu à l'ami Kevin qui a écrit ça. Nicolas nous dit, j'en ai pas de raison de faire vacciner des enfants. Ensuite, Christiani, aucune bonne raison. Il y a des petits déconnages que je vais placer, que ça rend la chose sympathique par-ci par-là. Simon qui mentionne que son chien, c'est son bébé. Puis il n'y a pas question. Moi, j'ai dit, pour l'instant, mon gars, je serais pas surpris qu'on nous propose un autre retour à la normale en échange d'une vaccination.
J'ai vu ce commentaire-là de Simon, puis pour vrai, j'y ai pensé. J'ai regardé mon chien. Non, mais t'as peu.
Ouais, tout ton chien m'a gagné.
Non, j'ai regardé mon chien, puis je me suis dit, tu sais, si un virus quelconque était pas dangereux pour ma race de chien et qu'un vaccin était disponible pour le protéger, même s'il n'est pas dangereux pour sa race, est-ce que je lui donnerais quand même? Et la réponse était non.
Non, mais bon, c'est ça.
Ben, c'est qu'il faut faire un calcul avantage-coût dans une situation de possibilité de choix libre et éclairé. Éclairé, ça veut pas dire... J'ai entendu un spécialiste, puis ça règle la question. Mm-hmm. On continue.
Je peux t'en faire une, j'en ai
avec
une.
Isabelle, est-ce que t'es à ça? Ben, j'essaie de y aller exhaustivement un peu. T'es à Isabelle?
Moi, j'étais à Andréane qui va un peu de l'autre côté. Elle répond pour pouvoir voyager avec eux sans qu'ils soient obligés de faire une quarantaine au retour. Andréane, sa réponse y appartient. Elle est valable. Ouais. Je la respecte.
Absolument.
Et ceux qui tirent de la marde à Andréane en la traitant de
mauvaise mère.
De mauvaise mère ou d'égocentrique.
C'est
ou de,
dégueulasse.
C'est complètement dégueulasse. On pointait du doigt ceux qui chiaient ces antivax ou whatever, puis tu sais, qui attribuaient des noms aux gens qui doutaient de la patente. Ben, en même temps, tu sais, on n'est pas là pour diviser la gang sous l'autre sens.
Parce que je vais vous dire une affaire. C'est ça. Vous plaignez que Dagon divise la société? Ben là, slacké. Mais aux États-Unis, 3 millions d'enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés. Ça, c'est une autre demoiselle qui nous amène la statistique, mais j'ai pu faire une vérification et c'est véridique. Et on ne rapporte pas encore de cas de problèmes graves liés à ça. Est-ce que ça peut arriver? Oui, parce qu'il y a toujours un petit délai entre les événements puis que ça soit compilé. Mais si ça arrive, ça va être très marginal. Vous me direz que c'est très marginal les problèmes d'enfants avec la COVID. Vous aurez raison. Et c'est pour ça que la question est posée. Mais on peut pas revirer non plus ça dans le sens où ça nous plaît parce qu'on haït tellement, mettons, François Legault, puis qu'on infère ça sur Andréanne, qui a dit qu'elle, elle allait y aller. Il n'y a pas plus de chances avec le vaccin. Vous y chialez après, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances avec la COVID. Réaliser qu'il faut une équité, quelque part, dans la façon de procéder. Isabelle, qui nous dit ce serait la bonne chose à faire parce que le gouvernement nous le martèle sans cesse, censure toute opinion contraire. Ça, c'est un élément qui est important avec les spécialistes aussi. J'aime le mot orthodoxie un peu trop ces temps-ci. Je vais mentionner rectitude ou conformisme. Ça s'applique aussi dans les domaines de recherche. Pour avoir fait des cours de méthodologie universitaire, dont un au deuxième cycle, c'est jamais exempt d'une une domination de pensée, une façon d'étudier quelque chose. Et présentement, dans le domaine médical, il y a clairement des problèmes automatiques pour quiconque voudrait sortir du discours habituel pro-vaccination sans égard à quelques conséquences que ce soit. On a à peine le droit de les mentionner sans se faire pointer du doigt. Pourtant, il y en a quand même. Aux États-Unis, selon le CDC, il y a eu près de 10 000 décès liés au vaccin. Et on se rappelle que on avait une façon de calculer les morts COVID qui était fallacieuse, c'est-à-dire qu'on a pris en compte des gens qui avaient 3 comorbidités puis qui pognaient à COVID et que ça ils décédaient avec, puis on les considérait comme étant morts de la COVID. Ben, de l'autre côté, on peut s'attendre avec cette rectitude-là ambiante à ce qu'il y ait une diminution peut-être des chiffres puis une gêne à lever un flag quand on s'imagine que peut-être il y aurait un lien avec un décès et un vaccin. Alexandre Côté, qui dit... Oups, j'ai nommé son nom de famille.
Pas mal, hein, ouais.
Qui dit... c'est pas grave, je le connais. Pour qu'il y ait la 5G. Je la trouve pas pire. J'y ferais vacciner parce que je voudrais plus qu'ils aient de système immunitaire.
Wow.
Là,
OK, c'est intense.
C'est rien qui n'a pas compris la patente. Là,
non, ouais. Ça t'enlève pas ton système immunitaire à un vaccin. Ça, en fait, ça le booste un petit peu. Mm-hmm. Je leur souhaiterais 2-3 vaccins par année afin que les entreprises pharmaceutiques ne sombrent pas dans la faillite. Ils sombreraient pas dans la faillite, mais c'est vrai que ça leur fait pas de tort au portefeuille. Si j'avais acheté des actions de Pfizer en janvier 2020, je serais millionnaire présentement. On a JP qui me demande « Hey, mais là, t'es-tu pro-picouille? » Ben, en général, mon ami, les vaccins, c'est pas un mythe, c'est pas une invention des Illuminati, calice. C'est bénéfique. Ça a sauvé des centaines de millions de vies. Puis mettons que je suis conservateur, ben c'est des dizaines de millions de vies. Alors, je suis pro-vaccin en général. Celui-là, je la pose parce que je suis pas certain pour le calcul coût-bénéfice pour les enfants. Je rappelle qu'on a une spécialiste de la question qui s'en vient tantôt sur les maladies infectieuses et vaccinations qui va avoir le discours orthodoxe à nous présenter. On va la questionner le plus possible quand même. Soyez certains de ça. Et c'est maintenant une autre Andréanne qu'on va citer. Si j'en avais pour les préserver d'une COVID longue et des effets secondaires qui durent, pour les protéger comme avec tous les autres vaccins. Quels seraient les arguments contre ceci, à ton avis? Elle me pose la question à moi, ben j'ai des réponses. Vous m'aiderez si vous en avez, Chico, puis Laurie, puis Christine. La COVID longue chez les enfants. Je suis dans les médias tous les jours. Je scrute ce terrain-là à journée longue. Quasiment quand je dors, j'ai un scanner pareil qui marche sur les médias. Puis je vous annonce une affaire, je connais le domaine. C'est sensationnaliste par nature. Et quoi de plus sensationnel qu'un enfant qui aurait la COVID longue? Et à ma connaissance au Québec, il y a paru quoi? 2-3 articles de cas spécifiques là-dessus.
C'est des cas anecdotiques qu'on dit.
Et
ici, hein?
Voilà, on ne gère pas à coup de cas anecdotiques. Mm-hmm. Ce n'est pas sain et ça ne doit pas être plus vrai avec les vaccins. Retenez bien ça, là. J'essaie d'être balancé ici. Les cas anecdotiques de problèmes de vaccins non plus doivent pas empêcher de se faire vacciner, mm-hmm. mais doivent pas, les cas anecdotiques de la maladie doivent pas nous pousser trop rapidement dans les bras d'un vaccin qui, effectivement, a été fait rapidement, hors norme, là. D'habitude, c'est au moins 5 ans. Bon, en tout cas, 3 à 5 ans pour développer ça. Ça a été fait en un an et quelques. On est déjà rendu aux enfants. C'est normal que ça soulève des questions. Pour les protéger, comme avec tous les autres vaccins, je viens de dire, c'est pas un vaccin qui a été testé et retesté puis qui a des dizaines d'années d'existence. Puis il y en a eu récemment des cas où des grands spécialistes ont remis en question des vaccinations de masse, dont celui pour le papillon humain. Et j'ai retenu ça. Moi, personnellement, avant que, mettons, ma fille soit avant de se faire vacciner avec ça, on aurait de belles grosses recherches sur Google Scholar, puis on consulterait pas un, pas deux, mais plusieurs experts, puis on s'assurerait d'avoir des avis dissidents, attitudes qui devraient être fondamentalement imprégnées dans l'esprit de tout décideur pour des choses aussi importantes que la vie d'un être humain.
Là où c'est un petit peu weird, là, c'est que t'as-tu beaucoup de chance comme d'attraper la COVID longue ou de mourir de la COVID si t'es jeune?
C'est ça que je viens de te dire.
La réponse,
non.
C'est non.
Non.
Bon. Maintenant, est-ce que t'as beaucoup de chance de développer, je sais pas, là, un problème suite au vaccin? La réponse, c'est non. En principe, ça devrait
non.
bien aller.
Ça.
Ben, dans les deux cas, les pourcentages sont faibles que ça vire mal. Maintenant, c'est pour ça que je pense que ça appartient aux parents et que le gouvernement fixe des objectifs par rapport à ça, c'est totalement dégueulasse.
C'est capoté. Puis attends, moi, j'y crois pas quand ils me disent qu'ils vont laisser la liberté de choix.
Non. En plus.
Non, non.
Je vois ce qui se passe dans les pays de l'Est. L'Autriche est carrément en train de dire qu'ils vont passer porte à porte pour forcer le monde à se mettre ça dans le bras. C'est contre tous les fondements de la médecine.
Ouais.
Quelque chose qui est contre les fondements de l'argumentation, c'est un peu la façon de faire d'Olivier, qui est là à pitcher 45 liens de crise de documentaires Facebook, YouTube. Je sais que Chico t'aime bien ça, puis je t'écœure avec ça. Il y a de la vraie information sur YouTube.
Puis en même temps, tu peux facilement discerner ce qui est weird puis ce qui est un peu champ gauche.
Dans ton cas.
Mais oui, c'est facile à remarquer. Premièrement, t'as des sources. Puis deuxièmement, tu le vois au ratio de like puis de dislike. T'sais. Si la personne est crédible et amène des arguments qui font du sens, premièrement, tu vas avoir des commentaires qui vont dans ce sens-là. Puis deuxièmement, tu vas avoir 80 000 likes pour 150 dislikes. À ce moment-là, t'as une bonne idée.
Déjà, ça peut aider. C'est des critères qui vont être pas pires. Par contre, il va y avoir, pour aider Olivier un peu, son problème, lui, dans ma tête, c'est pas tant de ben oui, c'est un problème de shooter en série des liens de même. Personne n'a le temps de consulter tout ça, mais il est trop gueulard. Mais à sa défense, pareil, tu sais, les gens qui vont être hors orthodoxie, hors conformisme, vont avoir un traitement médiatique qui va avoir de la censure, qui va inclure de la censure très rapidement, puis des debunk à deux scènes, que j'appelle. Et Andréane lui répond ça avec certaines des choses qu'il amène, qui sont intéressantes. Ouais, ça a été démontré que c'était pas vrai par, comment que ça s'appelle? L'avez-vous pas loin, vous autres, la réponse d'Andréane, qui notamment parle de la sortie de quelques scientifiques québécois récemment, des pharmaciens, des médecins, qui se portaient en faux avec le discours ambiant. Ils se basaient sur des statistiques de cet été, effectivement, mais ça n'empêche pas qu'il y avait une certaine validité. Tu peux pas discréditer un discours entier parce qu'il y a une fausseté qui a été intégrée. Non plus. Ouais, c'est ça. Hoaxbuster, OK? Décrypteur.
Ouais.
NewsGuard. Il y a des faux debunk et tout. Il y a des vrais debunk. Il y a beaucoup de matière à débunker de la marde. Mais également, il y a des debunk à deux scènes. Je vous répète qu'on essaye de trouver l'équilibre. Ce que n'a pas pu trouver Ludo, qui dit il tire des vraies balles en Autriche, reptile.
Ouais.
Un peu plus, il sortait le fameux pédosataniste.
Yann. Andréane et Olivier, ça a été un vrai combat hier soir. Là.
Ouais, puis eux autres, j'étais obligé de caler. Ben, Andréane était plus douce.
Ouais,
elle a dit je vais te laisser pitcher des liens YouTube à n'en plus finir.
Ouais, c'est ça.
Ça, ça a été débunk, tout ça. J'ai été obligé de dire à quelqu'un, à Olivier, moi, qu'il scamme son pompon parce que ça aide pas personne. Tu convaincras jamais quelqu'un en l'insultant.
Imagine un couple comme ça que le papa et la maman sont pas en accord, là. Puis ça va arriver.
Mais c'est parce que le problème fondamental, c'est que justement, les discours hors orthodoxie sont ostracisés et ça rend le monde frustré parce que c'est du jamais vu et ça, c'est normal que ça fasse un peu de d'hystérie dans une tête ou de fébrilité. Yann Rochdy, notre chroniqueur ici, qui a une réponse que je considère quand même pas loin d'un équilibre. Ceux qui imposent ça à leurs enfants le font pour trois raisons principales. Psychose sociale induite par les médias sociaux, les smartphones, les mass médias, addictions, le manque de sommeil chronique, qui est fort là-dessus, lui, qui rend les gens peureux et terrorisés. La peur de l'ostracisme dans leur gang de bobos urbains éduqués à être traités d'antivax, conspirationnistes, complotistes. C'est vrai que ça redirige beaucoup d'esprits qui auraient des petites tendances à une réflexion puis un pas de recul. Ce sont aussi des drones et n'ont pas le temps de faire quelques recherches. Ils travaillent tout le temps, font confiance aux médias, ils n'ont pas de source d'informations alternatives dans leur cercle. Alors, un, psychose, deux, manque de courage, trois, manque de temps et d'informations.
Ça, c'est tellement la bonne réponse, manque de temps et d'informations.
L'information. C'est le cas aussi pour les antis.
Oui.
Ils se pensent informés parce qu'ils ont vu Donald Pilon, asti, qui radote de la merde dans son trou de pas dedans.
Mm-hmm.
Je sais pas si c'est Donald, je m'en sacre. Les gens le font à cause de la carotte du retour à la normale et pour avoir droit aux privilèges. Effectivement, c'est le cas d'un très fort pourcentage de ceux qui vont sauter sur un vaccin pour les enfants. Bon, là, on l'a cité, mais je le refais. Pour pouvoir voyager sans faire une quarantaine au retour, les voyages, dans le cas de bien des enfants, c'est des stimuli absolument intéressants. Et pour protester, il y a d'autres moyens que de refuser de se faire piquer. Il y a d'écrire des textes sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que ça. C'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Il n'y a rien de plus facile. Il y a plein d'autres moyens. Carl, pour les mêmes raisons que je suis vacciné depuis mon tout jeune âge, coqueluche, diphtérie, rougeole, rubéole, tétanos, etc.
C'est pas pareil, on n'est pas à la même place.
Je suis d'accord avec Carl. Dans le fond, tu peux avoir peur que tes enfants contractent la COVID et qu'il y ait des complications.
Ouais, mais c'est pas la même maladie. Là.
Les vaccins pour ça ont été développés dans un contexte qui n'était pas un contexte de course.
Ouais, ils ont été développés en 1922 aussi. Là, ouais,
non, mais là, ils ont été raffinés.
Oui.
Puis on a des statistiques sur le long terme maintenant. Et pourquoi pas se poser des questions aussi sur ces vaccins-là? On n'est pas du bétail. C'est pas nécessairement toujours si utile que ça. Puis il y a eu plusieurs enquêtes qui ont démontré que les pharmaceutiques ont beaucoup trop d'influence sur les santé publiques à travers le monde occidental. À plein d'occasions, on s'est bourré et les calculs avantage-coût démontraient pas que c'était une bonne idée de se bourrer de ces médicaments-là.
Je suis d'accord.
J'ai l'intention de demander à notre prochaine invité, qui est infectiologue et spécialiste de la vaccination, son degré de trust, de confiance envers Pfizer puis Moderna, mettons.
Oui, puis, tu sais, moi, j'ai plus confiance à quelque chose qui est développé en un an, en 2020, que quelque chose qui a été développé en 50 ans, en 1930.
Non, mais il est remis à jour.
Je sais, mais ça, On le faisait quand même.
Ludo a traité Carl de reptile, encore une fois.
Ouais, il était après Sabi et tout, pendant un bout. D'après moi, lui...
Sabi, peux-tu... As-tu ça proche?
Ouais. Sabi, c'était plus de gens vaccinés égale moins de propagation du virus. C'est l'ensemble de la société qui en bénéficie, tout simplement. Ben, tu sais, Sabi a probablement la vision que moi, j'ai eue lorsqu'il est venu le temps de moi me faire vacciner.
Oui. Mm-hmm.
C'est-à-dire, est-ce que j'ai peur pour moi? Pas tant. Est-ce que ça va nous permettre, en tant que société, d'avancer? Je pense que oui, maintenant, je le fais.
Ça aurait dû nous permettre de s'éviter... l'ostracisme des gens qui voudront pas faire vacciner leurs enfants, ça le fait pas. On nous menace encore que sans ça, il y aura pas de retour à la normale. Pourtant, on a atteint un degré d'immunité collective avec 85% des adultes vaccinés. Dans le 15% qui reste, une bonne proportion l'a pogné. Mm-hmm. Et j'ai l'intention de parler de cette immunité collective-là avec notre prochain invité. Didier Lefebvre qui m'écrit. Oups, qui m'écrit.
Coudon Guillaume. Ouais,
y a-tu juste des anti-vax dans tes followers Facebook? Manque un peu de nuance dans les propos, ça fait pas avancer grand-chose, etc. Moi, je pense qu'il a écrit ça assez de bonheur et il a manqué de la nuance. Il y en a pas mal, j'ai l'impression, dans le post puis les réponses. Oui, il y a des excités un peu trop. Probablement plus du côté de ceux qui trouvent que c'est vraiment une mauvaise idée de faire ça. Par contre, ça fait pas avancer. Ça fait toujours avancer, même s'il y a de l'excitation à une trop grande proportion. Mmh. C'est bon qu'on débatte. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, anti-vax est un colibet qui est un raccourci intellectuel déshonorant. J'ai pas vu vraiment d'anti-vax des vrais qui pensent qu'il n'y a pas un vaccin jamais qui peut être bénéfique. Là-dessus, on doit s'arrêter. On va aller chercher notre spécialiste en maladies infectieuses et en vaccination. On vous revient. Manquez pas ça, vous écoutez les salles des nouvelles.
CJMD 96.9.
Tassez-vous les paupiettes.
Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là.
Check this out.
Les déjeuners, il y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là pis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, 2-3 clics, pis abracadabra, fromagerie Victoria.
Tu veux de l'extra-cash dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3 000 $ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra-argent!
Licence 20-20-02-02-85-51-01.
Votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. Pour un hiver sans souci de toiture, exigez le service expert de Groupe DBL et demandez votre soumission gratuite. Respectez votre budget, dépassez vos attentes et soyez en paix avec une équipe engagée. Le Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
Ah ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau. Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des peanuts. Ouais, ben disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969FM.ca.
Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres.
Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine.
L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace lounge, voituriers, restaurants réputés.
Il Mato.
Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Top Sex Shop,
Eros et compagnie. En couple ou seul?
Eros et compagnie.
Présentation à domicile.
Eros et compagnie.
Lubrifiant, jeu,
pont,
vibrateur, lotion, lingerie, fétiche.
Top Sex Shop, Eros et compagnie.
Dis oui à tes envies.
124, route du Président Kennedy à Lévis.
Eros-et-compagnie.com.
Tout bon connaisseur comprend que pour se parer à l'hiver, rien de mieux qu'une bonne bouteille de cognac Courvoisier pour réchauffer tes soirées. Le seul cognac qui fait honneur au rap, celui des boys d'Ala Claire Ensemble et même de la Cour impériale française. Eh ouais, t'as bien compris, le classique, le seul et unique depuis 1828, le Courvoisier. Sur glace, avec jus d'aloès ou soda de gingembre, peu importe la thématique, on a une suggestion cocktail qui t'attend sur Instagram. @Courvoisier_CA_advocate pour en savoir plus.
Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi? Les employeurs sont activement à la recherche de diplômés dans nos programmes, dont retraitement des dispositifs médicaux, robotique industrielle et conception mécanique. Pour plus d'informations sur nos attestations d'études collégiales, offertes en soirée ou à temps partiel, consultez la section formation continue du cégeplevis.ca. Pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment, inscrivez-vous dès maintenant.
CJMD 96.9.
La radio parlée, faite différemment.
Avec des retours de pause de classique hip-hop, vous entendez Onyx, Raise It Up, un vieux classique, on vous la jouera pas entièrement, on n'a pas le temps, hein? On a un gros sujet à traiter, la vaccination des enfants, on demeure là-dessus dans le bloc qui s'amorce, par contre on fait une petite circulation, une petite météo, ça vaut toujours la peine, on fait de la radio. C'est le média des proximités. Chico, comment ça se passe?
Ça se passe mal, encore une fois, notamment sur de la capitale à partir de Seigneurial, direction ouest jusqu'à Laurentienne, même dépassé. Pour ce qui est de ceux qui veulent se rendre au centre-ville, eh bien, la capitale direction ouest à partir de Robert-Bourassa. Par contre, c'est pas sur une longue durée. Robert-Bourassa, ça commence tranquillement à s'installer. L'accès au pont se fait facilement. Et la 20 direction ouest à partir de Chemin des Îles jusqu'au pont, quasiment.
La météo, Lolo?
-1, présentement, c'est dégagé pour ce soir et cette nuit. Ciel dégagé avec -5. Pour jeudi, ensoleillé avec passage nuageux avec 3. Et vendredi, quelques petits flocons de neige, 2 à 4 cm avec 2 degrés.
Parfait! La table est mise pour qu'on accueille notre prochaine invitée. J'ai nommé Chantal Sauvageau, qui est spécialiste en maladies infectieuses et vaccinations. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour, ça me fait plaisir.
On parle de vaccination des enfants ensemble aujourd'hui et je commence avec, comme j'aime le faire à certaines occasions, la question en toute candeur. Pourquoi ferait-on vacciner nos enfants de 5 à 11 ans? Quelle vertu principale voyez-vous à ce geste?
Ben, comme pour les autres groupes, donc pour protéger l'enfant lui-même contre l'infection, protéger son entourage qui peut avoir des plus petits. On sait que le groupe des 0-4 ans sont plus hospitalisés. Le groupe des 5-11 ans dont on parle ici, c'est vraiment le groupe qui est le moins hospitalisé, qui a le moins de complications. Donc, pour soutenir la vaccination, donc il y a réduire le nombre de cas, mais réduire le nombre d'hospitalisations puis de décès associés à la COVID dans ce groupe d'âge-là, c'est très, très, très limité. Donc, ça ne peut pas être notre raison principale de vaccination. Donc, beaucoup plus de ne pas faire l'infection, de ne pas avoir les mesures qui viennent avec l'infection, l'isolement, le risque de le donner à d'autres, les répercussions au niveau scolaire, tout ça, puis au niveau de la fratrie qui peut avoir là des membres plus vulnérables.
C'est la première fois que c'est porté à ma connaissance. C'est intéressant. Et vous dites qu'il y a plus d'infections dans ce groupe d'âge-là, les 0-4 ans, maintenant qu'avant, parce que c'est récent, là, cette donnée-là. C'était pas le cas à la première, deuxième, troisième vague, si je me trompe.
Bien, à vrai dire, à part la première vague où on avait l'impression que les enfants faisaient moins l'infection, c'était essentiellement parce que les écoles étaient fermées, puis les enfants avaient comme beaucoup moins d'opportunités de rencontrer le virus. Par contre, depuis la deuxième, troisième vague, là, on voit bien que les enfants ont la même susceptibilité de l'attraper. S'ils sont en contact suffisamment longtemps, comme nous, on l'est avec quelqu'un qui est infecté, ben, il a la possibilité de l'attraper et de le transmettre aussi.
D'accord.
Ce que j'abordais comme nuance tout à l'heure, c'est au niveau des formes graves de la COVID. Donc, les gens qui disent, ouais, ben, les 5-11 ans, est-ce que vraiment il y a des risques qu'ils se retrouvent à l'hôpital, qu'ils en décèdent? Très, très peu.
Bon.
Dans l'ensemble des groupes d'âge, c'est ça que j'amenais comme information. Là, c'est le groupe pour lequel on a le moins de complications. C'est le groupe qui le fait le plus présentement parce que, ben, justement, parce qu'ils sont pas vaccinés. Mais en termes de complications, c'est le groupe là pour lequel on en retrouve le moins.
Et
mais souvent, ils ont des frères ou petites sœurs qui ont, qui sont un peu plus jeunes ou plus vieux, qui eux ont malheureusement plus de risques
de chances de problèmes plus graves. Est-ce qu'on a des chiffres pour le Québec en ce sens-là, des 0-4 ans qui ont eu des complications graves, la COVID longue, des hospitalisations longue durée avec les respirateurs, les fameux respirateurs, des choses comme ça?
Pour le Québec, j'ai pas le chiffre précis, mais ça doit être autour d'une centaine qui ont été hospitalisés juste dans le groupe des 0-4 ans. Puis, par exemple, pour les 5-11 ans, qui sont plus nombreux, parce que c'est 7 cohortes d'âge, là, entre 5 et 11 ans, puis on parle d'une cinquantaine d'hospitalisations.
En 2 ans, sur une population de 8,5 millions.
Oui, c'est ça. Eux sont 650 000 à peu près, là, les 5-11 ans, là, donc c'est très peu, là, effectivement.
Oui. Puis là, c'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt, ça, pour ceux qui ne voudraient pas le faire, c'est très peu fréquent. Alors pourquoi j'irais? Et de l'autre côté, ils vont pointer des problèmes avec les vaccins. Ça, pour les enfants, c'est plus du registre du mythe, de ce que je comprends dans les études qui ont été faites. Puis les campagnes aux États-Unis, je pense qu'ils sont rendus à 3 millions d'inoculations. Oui. C'est zéro problème.
Zéro. C'est certain qu'il y a eu les effets attendus.
Oui, de la petite fièvre, là, un petit mal de crâne.
De la fièvre, mal au bras, comme les adultes qui ont pu être vaccinés. Là, la bonne nouvelle, c'est que pour eux, il y a la formule pédiatrique qu'on appelle. Donc, il y a 3 fois moins d'antigènes dedans, puis ils font la même belle réponse immunitaire que nous, on a comme adultes. Donc, et avec ce niveau-là, ben ça permet aussi d'avoir moins de fièvre, moins de frissons, moins de maux de tête là, la journée ou la suivante après la vaccination. Donc, ça a été vu aussi aux États-Unis avec les premiers millions doses de données.
Ça,
mais jusqu'à maintenant, pas de signaux graves. Là.
Pas de fameuse myocardite, péricardite, AVC, puis c'est 4-5 choses-là qui sont toujours pointées du doigt pour les adultes là, qui veulent pas recevoir la chose.
C'est ça. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Puis, à vrai dire, pour ce groupe-là, une fois qu'on comprend le mécanisme associé aux fameuses myocardites, donc il y a aussi, on peut faire une myocardite après la COVID ou après d'autres types d'infections. Ça, c'était bien connu, une inflammation du cœur ou de l'enveloppe du cœur. Puis, il y a une association qui est faite avec le niveau de testostérone. Et depuis toujours, on voit que c'est chez les jeunes adultes hommes qui ont, de façon, je dirais, naturelle, là, à cause de d'autres éléments, bien avant la COVID, le taux le plus élevé de myocardite.
Okay.
Et c'est aussi dans ce groupe-là qu'on a vu cette inflammation-là qui a suivi la vaccination, plus rare qu'avec l'infection, mais quand même plus que ce qu'on s'attendrait.
Fait que c'est vraiment une affaire d'adulte, ces histoires-là. Ben, les miscarriages, pour dire ça comme Molière le dirait, c'est plus une affaire d'adulte aussi, pas mal. pour ce qui est des caillots,
ben, vraiment, avec les vaccins à ARN messager, il n'y a pas du tout d'association avec les thromboses ou les caillots. Ça, c'est vraiment décrit avec les vaccins à vecteurs viraux comme le AstraZeneca ou le Johnson & Johnson. Ouais.
Je resterai dans la catégorie adulte, mettons. Tu sais, on craint souvent, puis on a souvent entendu dire de la part de plein de gens, oui, mais on ne sait pas ce que ça va faire dans un an, ça va faire dans 2 ans,
etc. Les fameux effets à long terme.
À long terme, est-ce que... Vous qui êtes experte, est-ce que vous voyez que dans une fenêtre de 1 an ou 2 ans, il pourrait y avoir des problèmes reliés à ce vaccin-là? Ou c'est tout simplement peu probable ou même impossible?
Question importante.
Une question très importante, mais jamais vue avec d'autres vaccins.
OK.
Donc, et une fois qu'on comprend encore ici le mécanisme, dans le fond, on injecte ici non pas directement la protéine ou une partie du virus, mais le code, la recette. L'ARN messager, c'est un brin qui a une recette que notre corps développe aussi la protéine qui se trouve à la surface pour après développer nos propres anticorps pour combattre ça. Puis quand on devient en contact avec la vraie, ben là, on a déjà des anticorps qui viennent la tuer.
Ouais.
Donc, c'est une étape de plus. Oui, c'est relativement nouveau, bien que ça fait 20 ans qu'on l'étudie, mais pour qu'on se rende jusqu'à un vaccin utilisé chez l'humain, c'est la première fois. Mais là, ça fait des milliards de doses données de ce même type de vaccin. On a le même vaccin en ARN de Pfizer comme nous on a eu chez l'adulte puis dans l'ensemble des pays avec même moins de, d'antigènes dedans. Et donc, le brin, comme la recette, elle est détruite en quelques jours. Après, c'est notre propre cascade immunitaire là qui se met en branle, comme c'est le cas pour les autres vaccins. Puis, avec les autres vaccins, on a, par exemple, un risque de syndrome de Guillain-Barré, un petit syndrome au niveau neurologique qui peut arriver 1 sur 1 million après avoir été vacciné avec l'influenza. C'est décrit. Ça survient dans les semaines suivant la vaccination. Mais il n'y a pas un syndrome de Guillain-Barré qui arrive un an après, là. On n'a pas ça, là. Ça
avec prend... aucun ça... autre vaccin, on a vu des effets à long terme. Jamais. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas un vaccin, finalement, cette histoire-là. J'ai vu ça de véhiculer. C'est pas un vaccin, c'est une fausse appellation. C'est une picouille, mais c'est quelque chose de totalement différent de ce à quoi on a été habitué par le passé. Votre réponse à ça?
Ben non, c'est vraiment... Ça peut pas être autre chose qu'un vaccin, là. C'est vraiment, comme je dis, c'est une étape de plus des autres vaccins qu'on est habitué où on se fait injecter d'emblée la protéine. Ouais. Ben ici, on a la recette pour que notre corps soit capable de fabriquer la protéine. C'est comme... c'est merveilleux. Ça va être utilisé, à mon avis, dans plusieurs autres... pour plusieurs autres pathologies
c'est
éventuellement,
pas fini.
D'autres vaccins.
Mais
c'est une superbe technologie.
Mais c'est ça, c'est là qu'il y a des gens qui disent des choses, puis je pense qu'il y a un mélange de vocabulaire. Ça modifie l'ADN parce que c'est les mêmes, ça ressemble aux mêmes lettres, c'est peut-être ça, mais y a-t-il une piste au niveau de l'ADN, des modifications de l'ADN?
Non, ça rentre pas dans le noyau de la cellule, ça peut pas modifier l'ADN.
Je reviens sur le groupe des 0 à 4 ans. C'est drôle, justement, on parlait d'ADN. En fait, les données, on voit que les 0 à 4 ans sont plus touchés. Est-ce qu'on a des données sur la vaccination des mères? Est-ce que les mères étaient vaccinées de ces enfants-là qui ont tombé malades? Est-ce qu'ils ne l'étaient pas? Est-ce que ça peut aider que la mère se fasse vacciner?
Probablement.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas les données précises là de ceux qui l'ont fait, quelle proportion avait la maman. Mais on s'entend que la maman, son gain, ça va être lorsque le bébé était dans son ventre et qu'elle a été vaccinée. Ça, on a des données qui montrent que la maman qui a été vaccinée transmet les anticorps à son bébé et qui a donc une efficacité dans les premiers mois. Mais ce sont des anticorps qu'on appelle passifs. C'est les anticorps que la maman a développés, qu'elle a transmis à son bébé, mais après les premiers mois, le corps, il les détruit, ces anticorps-là. C'est pas les propres anticorps de l'enfant, c'est sûr. C'est comme un peu des immunoglobulines qu'on peut se faire donner avant de partir en voyage là pour pouvoir être protégé pendant le voyage, mais ça se détruit après. Donc oui, il y a un avantage, mais quand le bébé est dans le ventre, après c'est la protection indirecte que si la maman le fait moins parce qu'elle est elle-même vaccinée, ben a moins de chances de l'attraper et donc de le transmettre à son jeune enfant.
Vous avez parlé de la protection des 0-4 ans comme une des raisons de faire vacciner les 0, les 5 à 11 ans. Et on pense aussi, ça a été évoqué, les personnes âgées et tout ça. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé près d'une immunité collective, le fameux dicton qui est véhiculé depuis 2 ans? Moi, j'ai fait des lectures du haut de mon bac en sciences politiques sur Google Scholar quand même, qui parlait d'immunité collective. Un début à partir de 40% d'individus qui auraient dans une horde contracté un virus. On est probablement, incluant les enfants, autour de 80, parce qu'il y a de l'immunité naturelle aussi. On n'est pas certain du nombre de personnes qui ont contracté la maladie, mais 85% des adultes sont immunisés artificiellement au moins. Est-ce qu'on en est à l'immunité naturelle maintenant?
Bien, selon les calculs là, des modélisations mathématiques, effectivement, on est très près, particulièrement là ici dans la région Capitale-Nationale et, je veux dire, Appalaches. Il y a certains secteurs où la couverture est vraiment plus basse, mais la plupart là, des régions et des secteurs autour de nous ici sont avec une couverture vaccinale élevée. Dans le fond, avec le variant actuel, donc le virus qui circule présentement, qui est plus contagieux que les précédents, malheureusement, et donc pour ça, vu qu'il est meilleur pour se propager d'une personne à l'autre, les modélisations ont estimé que ça prenait 85% de gens immuns. Donc, pour ça, vu que le vaccin n'est pas efficace à 100%, ben ça prend plus que 85% qui ont été vaccinés.
Ou qui l'ont eu, oui.
Et où, C'est ça. Ou ils l'ont eu. Parce que même l'avoir eu, ça ne protège pas 100% de le refaire, mais ça diminue grandement.
Moi, je pense que je l'ai pogné deux fois depuis le temps. Chico, ouais.
Oui, ben en fait, moi, ma question, c'était souvent, on entend les gens qui sont moins enclins à se faire vacciner nous dire « Ouais, mais vous allez voir l'année prochaine, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, puis dans 5 ans. » Est-ce que ça va être, selon vous, un vaccin qui va être renouvelable annuellement ou si on en est vraiment au dernier mille de cette cochonnerie-là?
C'est possible qu'on ait besoin d'avoir des boosters ou des rappels à l'occasion. L'avenir va nous le dire. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a une diminution, particulièrement chez les personnes âgées, qu'on le sait déjà que leur système immunitaire est moins bon que pour les plus jeunes. Ça se voit aussi pour d'autres infections. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir à vacciner encore dans le futur, c'est possible. Est-ce que ce sera uniquement les groupes plus à risque de se retrouver à l'hôpital ou d'en décéder? Peut-être.
Probablement.
Donc, ce sont des choses qu'on évalue. Ouais.
J'ai, dans mes grandes lectures de Google Scholar, aussi compris que les autres rhumes, là, je vais mettre ça en guillemets, mais d'autres rhumes, d'autres virus respiratoires, notamment les rhumes, sont des coronavirus et des coronavirus parallèles, distincts, mais cousins, fournissent une certaine immunité pour ce virus-là. Est-ce que ça, c'est entré dans vos calculs d'atteinte d'une immunité collective? Je comprends que c'est fait par région, je me réjouis d'entendre ça, mais est-ce que vous êtes exhaustif dans ce que vous allez chercher pour considérer une immunité? Puis les tests sérologiques, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. On a des tests par les égouts pour savoir à quel point ça a pu se répandre, là. Mais on commence avec ça aussi. Alors, je me demandais s'il n'y a pas un peu de pessimisme dans les calculs sur l'immunité collective, finalement.
Mais ma compréhension, c'est que les coronavirus qu'on appelle bénins, là, ceux du rhume, n'offrent pas une bien bonne protection contre le coronavirus, le SARS-CoV-2, là, mais pas du tout. Okay. Donc, même si on voulait ajouter ça dans les calculs, là, je ne crois pas que ça ferait une grosse différence. Jusqu'à maintenant, là, il y a vraiment, malheureusement, pas de... par exemple, les enfants qui font quand même beaucoup là, de faire des rhumes fréquemment, ben, c'est ça, leur probabilité est très élevée aussi d'attraper ce SRAS-là, là, ce coronavirus-là. Donc, malheureusement, le gain n'est pas envisagé de ce côté-là. À votre autre point sur les études sérologiques, il y a quand même là, des études faites par Héma-Québec, qui de toute façon, en font des prélèvements sanguins. Mm-hmm. Donc, il y a une collaboration avec Héma-Québec là, pour suivre la proportion de ceux qui ont des anticorps suite à l'infection ou suite à la vaccination. Oui. Mais c'est ça, c'est qu'on a eu, dans le fond... je dirais tout le trouble qu'on a eu dans la dernière année et demie, presque 2 ans, mm-hmm. avec un peu moins de 20%, 15-20% là, de la population qui ont fait le... et plus concentré dans la grande région de Montréal. Donc, c'est incluant, on a eu des études, là, une étude au niveau des adolescents, c'est ça qui a montré à Montréal entre 12 et 16% là, des adolescents 12-17 ans qui avaient fait la COVID. Là. C'est pas 80%, là.
Non, mais ça semble correspondre au nombre de tests positifs à peu près sur la population. Et j'ai eu des échos comme quoi il fallait... Ça s'est moins répété plus le temps passait, mais il fallait faire x10 avec le nombre de tests qu'on pouvait aller chercher comme étant positifs. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé en cours de route comme façon d'extrapoler.
Mais le x10, je ne sais pas, vous le prenez où, parce que...
Un épidémiologiste, je me souviens plus de son nom.
OK, mais c'est pas grave. Mais dans le fond, les études d'Héma-Québec, et on s'entend que ça, c'était chez les adultes, on n'avait pas de données chez les enfants, mais là, l'étude qui s'appelle Encore, là, qui a été réalisée dans la région de Montréal, nous a donné des données au niveau des adolescents. Et à la première vague, on avait manqué 3 sur 4. Avec les études des anticorps, on voyait qu'il y en avait 4, puis on en avait détecté 1 dans nos cas déclarés. Et à la deuxième et troisième vague, c'était plutôt, on avait réussi à en attraper 1 sur 3. Mais c'est pas 10, là.
OK, bon. Votre degré de confiance envers les pharmaceutiques en général, il y a eu des bavures, il y a eu des poursuites, il y a eu des condamnations à plusieurs occasions et c'est relevé régulièrement par ceux qui veulent pas recevoir de vaccins ou qui se méfient grandement de toute cette campagne-là. Vous qui connaissez leur fonctionnement, j'imagine que... Vous ne me direz pas que c'est parfait, mais je suis bien curieux de comprendre à quel point vous leur accordez une confiance. Mettons Pfizer et Moderna, on va enlever AstraZeneca de là, qui a eu des problèmes assez probants. Là.
Mais À vrai dire, les compagnies sont soumises à des règles assez strictes. Comme vous dites, il n'y a rien de parfait. Ce sont des compagnies quand même lucratives, donc ils ont un objectif de faire des sous. Mais quand on rentre dans les chiffres, là, puis qu'on va voir les tableaux, puis qu'on a accès aux différentes données, et les organismes régulatoires sont là pour faire des visites, retourner, redemander des chiffres. Donc, je dis pas que c'est parfait, mais personnellement, pour voir ces chiffres-là et creuser, j'ai quand même confiance que les essais cliniques sont faits d'abord chez les animaux, après en petit nombre chez des adultes, après en grand nombre chez des adultes, et après que la sécurité, l'efficacité est montrée chez les adultes, là, on passe aux enfants. C'est pour ça aussi qu'on arrive plus tardivement avec les enfants, parce que c'est pas avec eux qu'on commence les études. À part le fait que, bien sûr, ils souhaitent faire de l'argent et que, par exemple, la distribution n'est pas égale dans le monde, ça mérite beaucoup.
Ben, c'était ma prochaine question, je vous laisse poursuivre.
Mais en termes de qualité des données, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des erreurs à l'occasion, tout ça, mais globalement, avec les mécanismes en place maintenant, les comités d'éthique, les inspections qui sont faites, en tout cas, ce que moi j'ai vu au niveau de la qualité des données, ça me rassure.
Si je vous nommais dictateur éclairé de la planète entière, est-ce que ces doses-là sont bien utilisées, si on pense global, à les administrer en troisième dose et aux enfants, où on n'aurait pas été mieux de répartir ça dans des pays en voie de développement? C'est philosophique, hein? Puis on vous bombarde en passant, merci, puis bravo pour la réponse, c'est impressionnant.
Mais, ça me fait plaisir, mais à votre dernière question, c'est vraiment quelque chose qu'on discute souvent, nous, au Comité sur l'immunisation du Québec. C'est sûr que le Québec, dans la planète, n'a pas une influence dictatoriale, même si elle le souhaitait. Mais c'est certain que ça fait partie de nos discussions, parce qu'on est un tout. Alors, si on garde toutes les doses pour les pays industrialisés, il va y avoir d'autres variants, il va continuer. Ouais. Dès qu'on va voyager, on va le ramener. Donc, on a vraiment, vraiment intérêt à limiter quand on a vraiment besoin. Entre autres, au Québec, on recommande la troisième dose pour les 70 ans et plus. On a encore une très belle efficacité avec deux doses pour les plus jeunes. Donc, vivement que les pays qui ont beaucoup moins accès aux vaccins puissent y avoir accès et que collectivement, on s'en sorte.
On a une question d'auditeur avant de terminer, Laurie.
Bonjour. Ici, on a quelqu'un qui, son enfant de 7 ans, a déjà contracté la COVID-19. Aha. Et il se le demande, est-ce que je devrais faire vacciner mon enfant quand même?
C'est valide pour les adultes aussi.
Vu qu'il est déjà comme un peu immunisé pareil.
Ouais. Ben, lu, moi, dans Bloomberg, que c'était 13 fois plus efficace l'immunité naturelle.
C'est ce que je pourrais penser aussi.
Ah, très bonne question.
Dans le fond, c'est une très bonne question. L'immunité naturelle offre une bonne protection. Ce qu'on recommande, nous, c'est une dose de vaccin. Et les études montrent qu'avec une dose de vaccin chez ceux qui ont fait l'infection, c'est les mêmes niveaux d'anticorps, de protection que deux doses chez ceux qu'on appelle les naïfs, là, ceux qui n'avaient pas été en contact avec le virus. Mmh. Par contre, on estime que dans les 6 premiers mois après avoir fait l'infection, la probabilité de refaire une autre infection est très faible. Donc, je dirais, il n'y a pas nécessairement une urgence de vacciner, mais pour avoir une protection plus large, puis de plus longue durée, on recommande une dose de vaccin dans ces cas-là.
Merci.
On va vous laisser travailler. Il y a plein de questions qui me viennent. On peut-tu d'avance vous dire qu'on aimerait vous revoir et espérer que ça se produise après notre bombardement de 20 minutes?
Pas de problème, on regardera ça.
grand merci, Chantal Sauvageau. Au plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée, au revoir.
Vraiment, elle est infectiologue spécialiste des maladies infectieuses et de la vaccination.
J'ai le feeling qu'on rebrasse souvent les mêmes discours. Tu sais, on entend les mêmes choses depuis des années. Puis là, je trouvais ça intéressant parce que on a été vers d'autres avenues. Tu sais, les 0-4 ans, on n'a jamais parlé de ça.
Non, c'est vrai.
C'est effectivement le cas. Puis dans les histoires de « vous allez voir, dans des années, tout le monde va crever », ça, c'est très répandu. Puis ça, c'est de la bouette en canne. Mm-hmm. Je vais manger le thon à mayonnaise 10 fois avant ça. C'est du registre de la fin du monde est en 2012.
Oui.
Ouais, mais elle n'est pas arrivée. Oui, mais attendez. Ou bien le gros orange va rester à Maison-Blanche, il va prendre la place à Joe Biden. Ouais, c'est pas arrivé. Oui, mais attendez, vous allez voir, on va se faire dire, vous allez voir, un méchant bout de temps, puis quand ça va être plus tard, là, puis on va essayer de leur tirer vers du nez, ils vont être déjà partis sur d'autres théories. Qui ont pogné.
C'était juste pour nous préparer internet. À la prochaine
affaire. Ouais, je me suis peut-être trompé, mais tu comprends pas comment ça marche la planète, là. On nous cache des affaires, des Illuminati sont des Puppet Masters. Ça, c'est la merde. Et là-dessus, j'ai été convaincu. Par contre, moi, j'ai pas été parfaitement... Ça m'a pas rendu enthousiaste pour faire vacciner si j'avais un enfant de 5 ans demain matin.
Sans nous rendre enthousiastes, je pense qu'on a dédramatisé certaines situations potentielles.
Parce que, par exemple, les petits problèmes, la fièvre, là, moi, j'ai passé un 36 heures de marde. Je suis convaincu que je l'ai pogné deux fois. Mon immunité était là. Je fais attention pour pas contaminer le monde comme jamais. Je faisais déjà attention avant COVID. Quand j'avais le rhume, hostie, je restais chez nous. Là, c'est encore pire. Je reste chez nous over longtemps. Je mets un masque, je me garde mes distances, je me lave les mains, etc. Le travail, c'est non. Dès qu'on a des soupçons, même quelqu'un qui est autour, pis etc. À un moment donné, tu sais, il faut arrêter peut-être de toujours en avoir plus. Puis ça a des conséquences. Pareil, ce 36 heures-là de pas filer, c'est pas rien non plus. Traitez-moi de moumoune si ça vous tente, mais d'un certain côté, on pourrait revirer facilement le colibet. Là.
Ben, ouais. Mais on peut pogner à COVID aussi puis passer un 36 heures plate.
T'es pas le seul, Guillaume.
Effectivement, mais tu peux le pogner pareil, même si t'es vacciné. Puis sur le taux, excuse-moi Christine, de réponse immunitaire, là j'aurais aimé ça qu'on ait un peu plus loin, parce que c'est extrêmement complexe, le système immunitaire. Puis eux autres, je pense qu'ils mesurent ça beaucoup à partir d'anticorps, mais il y a d'autres données dans un système immunitaire. Il y a toutes sortes de choses à regarder. Christine, excuse-moi.
T'es pas le seul, je pense que ça rebute un peu. Bon, la fièvre, mettons, de la deuxième dose. Il y en a beaucoup qui ont eu peur de cette deuxième dose-là. Autrement, je trouve que Madame Sauvage...
Nadia a eu de la misère à faire ses jogging aux mêmes distances pendant 3 semaines, 1 mois après. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement.
Mais ça, en même temps, c'est la réponse de notre système immunitaire, ce qui veut dire que c'est pas du long terme. C'est pas...
Non, le long terme, ça, pour moi, ça a toujours été écarté. Puis j'ai dit que le vaccin était correct. Je pense que je viens quasiment de me casser le doigt en l'air que ça fait donc bien mal. Aïe, aïe, casser ça.
Non, c'est à cause du vaccin.
Oui, ben c'est ça. Le vaccin de prendre, c'est une affaire. L'obliger, c'est là mon problème. Et ça a été une des raisons que ça m'a fait hésiter à le prendre.
Ce que moi, je comprends pas, c'est que le témoignage de Mme Sauvageau a été très éclairant. Je comprends pas pourquoi qu'on n'a pas ça dans les médias. Pourquoi que les 0,4 ans... Non, mais pourquoi que ça n'a pas été abordé?
Ben, ça a dû être mentionné. On n'a pas l'oreille à chaque speaker.
Non, mais pourquoi que c'est pas...
Je
crois que c'est évité, là, vraiment.
En
là.
Même temps, est-ce que ça change vraiment grand-chose? J'ai parlé de l'immunité collective.
Oui, c'est une jeune famille.
Non, mais l'immunité collective. Puis en passant, ça aussi, j'ai pas eu le temps, mais tu peux le transmettre presque autant quand t'es vacciné qu'un non-vacciné. C'est juste, la protection, c'est pour les formes graves. Puis elle l'a dit, c'est rare en tabarslac, 200 cas de mineurs. Incluant les 0-4 ans en 2 ans.
C'est 150 cas, en fait.
Sur des centaines de milliers d'enfants. Mm-hmm. OK? Fait que rentrez ça dans votre calcul avantage-coût d'un un avis libre et clair.
Mais autant qu'elle a démontré qu'il n'y avait aucun vaccin qui, après des années, s'était avéré potentiellement dangereux.
Ah, ça, c'est important.
Donc,
il faut
le souligner. Là, on va couper
la... Non, il y a messager, on n'a jamais fait ça. Oui, mais ils l'ont pas fait. C'est une napkin qui me...
Ben non.
Tu sais, ça a été étudié depuis une vingtaine d'années, ce processus de fabrication de vaccins-là. C'est un 2.0. Ça a peut-être permis que, pour ce qui est d'isoler puis de mettre dedans la COVID, on aille plus vite. Et elle a bien dit des choses positives sur les compagnies pharmaceutiques. On l'a senti que ça ne tentait pas de vanter Pfizer plus que ça. Mais moi, je vais ajouter... Qu'eux autres, imagine que le tiers de la population de l'humanité décède, là. Ils font moins de cash, je t'annonce.
Qu'est-ce que t'en penses, évidemment?
Ça, c'est pas...
J'ai une bonne idée, là. On va contrôler la planète en tuant tout le monde.
Puis les gens qui pensent qu'il y a de l'eugénisme partout, OK? De l'eugénisme, ça veut dire des volontés de réduire la population, les théories malthusiennes appliquées, là. Malthus, qui est un savant fou des années 1800... il y avait le doigt sur quelque chose. En même temps, on peut pas avoir 45 milliards d'êtres humains sur ce boule-là avec les ressources qu'il y a dessus pendant des millénaires. Là. Maintenant, on va être dans le trouble. Mais il n'y aura jamais de concertation à un niveau aussi intense pour qu'on convienne de tuer le tiers de la population. Pas parce que le monde est riche et puissant qu'ils s'entendent mieux. Puis qui garde des secrets mieux. Mais 10 personnes d'une pièce d'honneur un bonbon au bout Mais il faut qu'ils s'entendent, ça va être tough en sacrament, même si le bonbon est gros puis l'enjeu ne l'est pas. Puis du secret, oublie ça, en dedans de 5 minutes, il s'est perdu. Fait que ces histoires-là, enlevez ça de votre calcul, s'il vous plaît, puis continuez à être sceptique, ces pharmaceutiques. Pareil, mais tombez pas dans le campé, ces complexes, ces questions-là. Je le sais qu'on n'a pas toutes posé question. La fille n'est pas payée pour mais faire non, ce qu'elle vient de nous faire comme exercice-là. Je pense qu'elle s'y est prêtée de bonne foi avec des connaissances poussées. Puis qu'elle aussi, on l'a senti, elle s'en est posé des questions éthiques puis de l'ordre de son domaine d'expertise profondément. On continue l'exercice. Puis moi, pour la, mettons que j'ai un flow de 5 ans, je répète, ma plus vieille, il y a 3, présentement, je cours pas l'affaire vacciner, je suis désolé. Non. Sauf que j'irai pas clamer que c'est la mort assurée, comme j'ai vu sur le post, Asti, que j'ai mis sur la page Facebook. Ma page, Guillaume Ratté-Côté, vous pouvez aller commenter. Ça continue à débattre là-dessus, d'ailleurs. On n'a même pas eu le temps de faire le tour des commentaires. Là, c'est rendu à plus que... pas loin de 300, on a fait de même. On y reviendra, assurément.